Le parc éolien entre l'Île-Dieu et Noirmoutier, on en parle depuis 2010 sur Neptune FM. Où en est le projet 7 ans plus tard? Bruno Nourry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de l'Île-Dieu. Michel oui. Charrot, bonjour.
Oui, bonjour Roland.
Vous êtes chargé du développement économique à la mairie de l'Île-Dieu.
Développement économique et la transition énergétique à la
C'est
mairie
bien
de
le préciser. Côté consortium, Lucille Forget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du développement local du parc éolien en mer des îles Dieu et de Noirmoutier.
Tout à fait.
L'étude d'impact environnemental a été remise au service de l'État en mai 2017. La réponse est attendue pour quand, Lucille?
Alors, c'est un gros dossier hein, qui est constitué d'un peu plus de 5000 pages. Donc, effectivement, il a été remis au service de l'État dans le courant du mois de mai 2017 et il est en cours d'instruction par l'ensemble des services de l'État. Donc, c'est une instruction qui prend un certain temps compte tenu de sa complexité et de son importance et de l'importance du projet. Aujourd'hui, il y a différentes phases qui sont engagées simultanément. Tout d'abord, la consultation des maires et services hein, qui est en cours. Ça concerne à peu près 40 collectivités qui ont reçu le dossier et qui doivent émettre un avis sur ce projet. Et quand on dit consultation maires et services, ça concerne aussi des services de l'État, par exemple l'IFREMER, le DRASM, le CEREMA, qui est un service de l'État en charge des sujets très techniques, mais aussi des acteurs locaux, enfin des services et des représentants de collectivités et de services locaux comme le SAGE du Marais Breton. C'est pour n'en citer que quelques-uns. Donc cette consultation des maires et services est toujours en cours. L'autorité environnementale a également été saisie, tout comme elle l'avait été sur les projets du premier appel d'offres. En parallèle, ont également débuté depuis le mois de novembre les commissions nautiques locales qui se sont déroulées au tout début du mois de novembre et la grande commission nautique qui, elle, aura lieu ce jeudi 7 décembre et qui sont chargées de statuer sur les aspects liés à la sécurité maritime.
Pour l'instant, vous n'avez pas eu de retour.
Sur quel point?
Sur les grandes. Par rapport aux maires et aux services?
Alors si, on a commencé, enfin il y a déjà eu quelques retours, mais qui sont adressés à la préfecture, puisqu'en fait, c'est la préfecture de département qui instruit le dossier et qui collecte l'ensemble des avis émis par les structures consultées.
La réponse de la préfecture, vous l'attendez pour quand?
Alors, pour continuer sur cette succession d'étapes, en parallèle de ces commissions nautiques et grandes commissions, il y aura l'enquête publique, dont la parution, ça y est officielle, et qui se déroulera du 4 avril au 23 mai, et nous attendons les autorisations pour le quatrième trimestre 2018. Voilà, on en a encore pour un an à peu près.
Vous nous parlez d'enquête publique, elle se déroulera du mercredi 4 avril au 23 mai prochain. Par contre, seulement deux permanences sur l'Île-Dieu, les 20 avril et les 11 mai prochains. Comment vous l'expliquez, Bruno Nourry ou Michel Charrouf?
L'État a programmé son enquête publique avec ses permanences. On a été très surpris de notre côté d'avoir seulement deux permanences sur l'Île-Dieu. Je pense que une enquête publique se fait justement pour que le public puisse prendre les éléments de l'enquête et puisse s'exprimer sur le sujet. Donc,
donner
on a écrit
avis, oui.
au préfet, enfin à la préfète de région, pour demander d'avoir plus de créneaux. Ça me semble quand même quelque chose d'important parce que le parc va beaucoup impacter l'Île-Dieu. Donc, c'est important que le public puisse s'exprimer correctement. Bon, je crois que la demande est en bonne voie, mais bon, pour le moment, on ne peut rien dire de plus.
Pour l'instant, pas de réponse.
Non, mais on a écrit récemment, on le sait récemment, hein, cette affaire d'enquête publique. Mais bon, nous, dès qu'on a su les dates, on a écrit pour demander davantage de créneaux. Bon, je pense que notre demande va être entendue.
Lucille Forget, par rapport à l'étude d'impact, quelles thématiques ont été étudiées?
Alors l'étude d'impact, ça répond déjà à un formalisme réglementaire, hein. Ça n'est pas laissé à la libre appréciation de chaque porteur de projet. Donc nous l'avons réalisé sur le modèle communément pris pour ce type d'analyse. D'abord, ça comprend un état initial de l'environnement, état initial qui porte sur 5 volets, 5 compartiments, le milieu physique, Donc on a fait des analyses, des prélèvements de sol, d'eau, d'air, pour évaluer la qualité du milieu physique avant l'arrivée du projet. Le deuxième paramètre qui a été analysé, c'est le milieu naturel, qui comprend la faune et la flore, donc tous les aspects ornithologiques, les chauves-souris, mais aussi les espèces de mammifères marins, les poissons, les différentes espèces aussi qui sont inféodées au fond marin, selon qu'on ait un fond sableux ou un fond rocheux. On a aussi fait porter cette analyse sur le volet paysager et patrimonial, et on entend par là, bien évidemment, les îles, mais aussi le continent. Hein. Cette étude, elle a aussi porté sur la frange littorale de la Vendée. Le quatrième volet sur lequel a porté cet état initial était le milieu humain, extrêmement important, puisque il était question de comprendre quels étaient les enjeux et les acteurs qui allaient être concernés par ce projet.
Par exemple, les marins.
Bien sûr, les marins-pêcheurs, mais aussi les acteurs du tourisme, le transport, puisque notamment à l'Île-Dieu, la question du transport maritime est particulièrement concernée, mais aussi les loisirs, quelles sont les activités de loisirs qui se pratiquent en mer ou sur la frange littorale, et comment elles vont accueillir ou s'accommoder de ce nouveau parc, mais aussi l'immobilier, parce que c'est un sujet qui est récurrent lors des entretiens que l'on peut avoir avec les îlets au cours des réunions, ou des gens qui viennent nous rendre visite dans nos points d'information. Donc ça, c'est le quatrième paramètre. Et le dernier paramètre, c'est l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. Donc on a fait un état initial de tout ça. On a ensuite décrit notre projet dans ses différentes phases. La phase de construction, la phase d'exploitation et de maintenance, qui sera la plus longue, puisqu'elle s'étalera sur minimum 25 ans. Et enfin, la phase de démantèlement. Et la troisième partie de cette étude d'impact, c'est, comme son nom l'indique, une évaluation des impacts marins et terrestres sur les cinq catégories que je vous ai décrites précédemment. Et en fonction de la quantification et de la qualification des impacts, nous avons proposé des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation de ces impacts. Peut-être que c'est intéressant de donner un ou deux exemples de chacune de ces mesures.
Oui.
Alors par exemple sur les mesures d'évitement, c'est l'engagement de ne pas utiliser de peinture anti-fouling, hein, anti-salissure, sur les fondations de jaquettes, de manière à protéger la qualité de l'eau et des sédiments, et donc avoir un meilleur effet récif de ces fondations. Ça c'est vraiment typiquement de l'évitement. Des mesures de réduction, c'est par exemple quand on va installer les fondations, essayer de faire des forages simultanés des pieux de deux fondations de jaquettes simultanément afin de réduire le temps de construction et les perturbations qui sont associées. Mmh. On peut aussi citer une autre mesure d'évitement, enfin de réduction, pardon, par le choix de l'éolienne que nous avons choisie, une éolienne de 8 MW, qui en étant plus puissante permet de réduire le nombre d'éoliennes par rapport à une éolienne moins puissante. Donc ça c'est de la réduction. Et puis, là où on n'aura pas réussi soit à supprimer, soit à réduire l'impact, eh bien, il est nécessaire de le compenser. Et bien sûr, de le compenser à la hauteur de l'impact identifié. Donc ça passe par la mise en place de démarches de protection et de préservation d'espèces, espèces d'oiseaux ou de mammifères, par exemple, mais surtout d'oiseaux, sur des îles ou des îlots, mais pas que sur un périmètre proche, parce que pour les oiseaux, on est bien conscient que les oiseaux ne sont pas statiques, hein, ce sont souvent des espèces qui viennent nicher ou se reproduire dans un endroit, mais qui effectuent des migrations. Et donc les mesures que nous avons proposées sur les espèces ornithologiques, elles peuvent tout à fait porter sur un site qui soit un petit peu plus éloigné que spécifiquement l'Île-Dieu ou Noirmoutier.
Bruno Nourrice.
Ça peut être...
Oui. Bruno Nourrice ou Michel Charreau, le dialogue se passe bien avec le consortium ?
Bah, écoute, nous avons vécu toute la première partie, enfin la fin de l'année 2016 et la première partie de l'année 2017, dans une phase de négociation. Mm-hmm. Hein, quand on dit le consortium, c'est en même temps, je dirais, les énergéticiens, donc autour d'Engie et de ces deux entreprises. différentes entreprises qui sont jointes à Hull, mais c'est aussi avec celui qui fournit les turbines. Donc, à l'époque, je vous rappelle, c'était Areva, puis ensuite, ça a été Aduen lorsqu'ils sont fait un lien avec Gamesa, avec l'espagnol Gamesa, et maintenant, c'est Siemens. Et je peux pas cacher aux îlets que cette phase-là était un peu délicate, quoi. Mmh. C'est-à-dire que nous n'avions pas forcément, je dirais, la même manière de répondre à un certain nombre d'obligations techniques qui pouvaient être, voilà. Et donc là, nous avons négocié. Et cette négociation, elle portait, bien sûr, pour beaucoup sur l'implantation du lieu, donc de la maintenance, mm-hmm. que ce soit sur la partie terrestre. Je rappelle que dans un premier temps, nous avions pensé que cette maintenance pourrait être faite dans le coin des Bossilles avec un bâtiment relais sur le quai du Canada, puisque il était impossible à ce moment-là d'avoir un autre espace sur le port. Et puis lorsque le centre de marée a arrêté la partie en chair,
la criée, quoi.
Oui, la partie a crié, même si le bâtiment continue à fonctionner, même si les marieurs sont toujours là, la partie en chair n'a plus lieu d'être, et donc ça a permis de libérer un certain nombre d'espaces, et à ce moment-là, nous étions tout à fait prêts à entrer dans une négociation pour voir comment nous pourrions aborder, du coup, la possibilité de faire que le lieu de la maintenance se situe à cet endroit-là.
À la criée.
Oui. Mais ça nécessite quand même un certain nombre de mesures de précaution, parce qu'il faut quand même qu'on respecte aussi l'ensemble des autres métiers qui sont dans le même bassin, que ce soit la partie, je dirais, navigation maritime avec côté nord, les navires de côté nord, que ce soit les marailleurs, les pêcheurs, que ce soit aussi l'entrée dans le port. Nous étions à un moment donné en négociation et en discussion, je cache pas, un peu abrupte, sur la nécessité qu'il y aurait eu d'approfondir le port. Et en fait, à l'issue de cette négociation, nous avons trouvé un terrain d'entente, c'est-à-dire il n'y aura pas approfondissement, je dirais, de l'entrée dans le chenal, mais par contre, il y a bien sûr la possibilité d'approfondir l'endroit où les bateaux pourront être hackés. Voilà, donc, tout ça s'est passé durant 6 mois. Ça a été un peu des négociations parfois un peu viriles, je dirais.
Assez houleuses, pour reprendre un terme maritime.
Oui, on peut le dire. Ça a parfois été un peu houleux. Mais finalement, ça s'est très bien terminé. Nous avons trouvé un terrain d'entente qui va dans l'intérêt de tous, même si encore un certain nombre de points techniques à approfondir, quoi.
Quels sont les points techniques alors à approfondir, Michel ou Bruno?
Après, c'est du détail d'aménagement sur, par exemple, le stationnement des bateaux le long de la criée, quid de la cohabitation avec les bateaux de la régie en termes de sécurité, par exemple, sur des circulations, sur des zones de parking ou autres. Donc, il y a les principes généraux. Après, il faut aller voir dans le détail, même si pour valider ce scénario, le consortium, la chambre de commerce, nous-mêmes avons étudié ces possibilités. Mais derrière, il y a encore ces points-là à étudier plus profondément.
Michel et Bruno, on vous écoute en parler. La base de maintenance pour l'Île-Dieu sera installée à la criée. C'est sûr et certain.
Elle sera installée à la criée. Si tu veux, Roland, pendant dans tout ce temps-là, raison,
Bruno. C'est bien précisé, Bruno.
Nous avons travaillé avec, en même temps, tout un groupe de travail, toute une commission qui était extrêmement ouverte, ouverte représentant des marins, représentant des commerçants, représentant des associations environnementales, tous les représentants des utilisateurs du port, marine de loisirs, etc., etc. Donc tout c'est ainsi la chambre de commerce, le département, la commune, voilà. Donc il y avait en même temps, on n'était pas seul. Nous avons voulu que l'ensemble de ces questions fassent l'objet aussi de la vie et que la discussion se passe en présence de l'ensemble de ces représentants. Donc, il y a eu, je crois, 3 ou 4 réunions comme ça où ils étaient là et tout le monde peut témoigner.
Les représentants sont satisfaits que cette base de matance sera récréée.
C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, et à la dernière réunion, Bruno a bien posé la question à tous de savoir si tout le monde était d'accord sur ce choix-là et tout le monde a donné son accord. Donc oui, ça se fera dans les anciens bâtiments qui étaient autrefois ceux de la criée, sachant que le centre de marée continuera à fonctionner avec sans doute des aménagements et des déménagements internes. Voilà.
Lucile Vorger, cette base de maintenance à la criée de l'Île-Dieu, c'est un souci pour vous ?
Absolument pas. D'abord, c'était un engagement. Lorsque nous avons répondu à l'appel d'offres fin 2013, nous avions pris l'engagement de mettre une partie des activités de maintenance sur l'île-Dieu pour répondre à la demande des élus locaux et départementaux. Donc c'était notre mission que de réussir à trouver la solution, le compromis qui permette d'intégrer notre activité et de façon paysagère et dans son environnement, on va dire, social et économique sur l'île-Dieu. Donc je voulais dire justement en complément de ce que disaient Monsieur Nourry et Monsieur Charlot, que nous sommes très satisfaits, même s'il y a eu certains grains même dans nos échanges. On est très heureux que finalement on ait retrouvé une météo calme et une belle mer, pour filer la métaphore marine. Et ce compromis dans la criée nous convient parfaitement, puisque effectivement il nous permet d'être dans une partie de Port-Joinville où l'activité est un peu plus industrielle, avec le stockage des carburants, l'activité de fret et le port. Donc c'est parfait, il y a une meilleure intégration paysagère dans le sens où on ne construit pas de nouveaux bâtiments et où on a la possibilité, en occupant une partie de ce bâtiment de la criée, d'avoir un accès direct à l'un des quais, sans bien sûr fragiliser l'activité de la pêche qui s'y déroule déjà. Et donc on a étroitement travaillé avec les représentants de la pêche professionnelle, comme le précisaient Monsieur le maire et Monsieur Charlot, et les mareyeurs, pour caler presque au mètre près le linéaire de quai dont nous aurions besoin et la façon dont nos activités pourraient cohabiter ensemble. Donc nous nous félicitons d'être arrivés à ce compromis-là.
Autre questionnement qui se pose actuellement, le parc va générer combien de tonnes d'aluminium et de zinc par an ? C'est une question qui revient souvent.
Alors c'est une question qui
Lucile
revient souvent.
Lucile Vorger.
C'est une question qui revient souvent.
C'est une inquiétude souvent, non ? Également ?
Oui, de façon légitime, parce qu'effectivement, il va falloir qu'on protège les fondations jacket de la corrosion marine. On en parlait tout à l'heure, il y a différentes solutions. On peut utiliser des peintures anti-fouling qui sont et de loin bien plus dommageables pour l'environnement. Et actuellement, la protection cathodique par anode sacrificielle est la technique qui est la plus utilisée pour combattre la corrosion des structures métalliques qui sont immergées dans l'eau de mer. Alors, on s'émeut beaucoup de ces anodes sacrificielles, mais il faut quand même rappeler que ça existe déjà depuis bien longtemps et que déjà à Port-Joinville, les pontons et les pieux qui maintiennent les pontons du port de plaisance ou du port de pêche sont équipés de ce type d'anodes. Les bateaux de pêche, les tankers qui passent au large de l'île-Dieu pour rejoindre le chenal d'accès et le port de Saint-Nazaire sont également équipés de ces anodes sacrificielles. Donc voilà, je comprends que ça ait généré de l'émotion, mais il faut aussi replacer ça dans un contexte plus général. Et ça fonctionne comment ? Alors, on va effectivement mettre des anodes sur chacune des fondations qui sont composées à 95% d'aluminium et 5% de zinc. Il faut rappeler que ce ne sont pas des éléments externes au milieu naturel. Hein. On trouve déjà ces deux composants dans la croûte terrestre, dans les océans. Alors, on a, bien évidemment, dans le cadre de l'étude d'impact, on a analysé l'impact potentiel du rejet en mer lié à la présence de ces anodes. Et on a bien sûr analysé de façon très détaillée la composition de ce qui allait être rejeté, mais aussi, pas que ça, on a aussi analysé l'évolution de la concentration de ces métaux-là après mélange et dilution dans la masse d'eau. Parce que ça, c'est important. Il y a des marées, on est dans le golfe de Gascogne, il y a un brassage de l'eau qui fait que la dilution de ces métaux dans la masse d'eau permet de relativiser un peu. Et pour réaliser cette étude, on a fait appel aux spécialistes les plus chevronnés sur ce sujet. C'est l'unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Bordeaux, qui est spécialisée dans l'analyse de l'écotoxicologie de l'environnement et l'impact de ce genre d'activité humaine, donc entre autres les anodes sacrificielles sur les compartiments chimiques et biologiques de l'environnement. Alors, on ne va pas retracer ici l'étude, elle sera jointe au dossier d'enquête publique, et chaque citoyen pourra aller la consulter. Ça, c'est vraiment un souhait de notre part, mais en synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que l'analyse qui a été menée conclut que le projet contribue très faiblement à la chimie de la masse d'eau du parc, sur la zone du parc, et que l'impact, que ce soit sur les espèces halieutiques ou les espèces benthiques, qui sont donc sur le fond de la mer, sera faible à négligeable.
On vous écoutait parler, Lucille, il n'y a pas de danger pour la santé, que ce soit humaine ou des poissons ?
Absolument pas, absolument pas. Et pour attester de notre bonne foi, nous nous sommes engagés à mettre en place pendant la durée de vie du parc éolien un suivi de l'évaluation de l'effet de ces anodes sacrificielles sur non seulement la qualité de l'eau, mais aussi certaines espèces représentatives.
Bruno Nourry, ou Michel Chabot, c'était un questionnement ?
Non, pas vraiment. J'étais assez surpris que ça vienne au débat, parce que pour ceux qui connaissent bien la mer, on sait qu'il y a des concentrations de métaux dans l'eau, y compris du zinc, de l'aluminium, de manière naturelle. Et l'apport d'aluminium ou de zinc d'anodes sacrificielles est complètement négligeable dans un milieu ouvert comme ça. Les anodes sacrificielles, enfin, Lucille l'a rappelé, il y a dans les ports, toutes les structures métalliques et immergées comportent ces anodes. Hein. C'est pour que ce soit l'anode qui se ronge plutôt que la structure. Donc on l'a aussi sur les bateaux. Donc c'est une pratique qui est répandu, qui a jamais posé souci à personne, sauf là, quand on est contre le parc. Enfin, c'est toujours la même chose. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc je suis assez surpris de ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut toujours limiter les impacts, même si, encore une fois, cette dilution ne va pas métamorphoser la concentration déjà naturelle de ces éléments de l'eau de mer. Donc, de toute façon, c'est négligeable. Néanmoins, j'ai demandé, moi, au consortium, de regarder aussi des techniques alternatives. Je pensais notamment à notre conduite d'eau entre l'île d'Yeu et le continent, qui, elle, n'a pas d'anode sacrificielle. En fait, c'est un micro-courant qu'on injecte dans la conduite d'eau, qui fait que ça modifie en fait le potentiel électrique de la canalisation en fonte, ce qui lui fait en fait plutôt gagner en matière qu'en perdre. En fait, la première canalisation d'eau qui avait été posée, j'ai plus les dates exactes, mais c'était à la fin des années 50, peut-être 1960, elle a été changée en 77, donc elle n'a pas duré très très longtemps, on va dire. Et c'est en 77 qu'on l'a changé qu'il y a eu cette technique de micro-courant dans la canalisation qui fait que 40 ans après, elle est intacte, elle n'est pas prête d'être changée. Donc J'aimerais bien qu'on étudie aussi ce genre de technique pour éviter tout quiproquo, même si c'est peut-être plus complexe sur ce type de fondation, parce que qui dit courant, il y a un point A, un point B, donc il faut quand même que ça circule sur l'intégralité de la structure. Mais bon, voilà, j'aimerais bien qu'on étudie.
Lucille, qu'auriez-vous à répondre à Bruno Nourry ?
Alors, effectivement, on a connaissance de cette technique alternative de protection des fondations de jaquettes par courant imposé. Elle a été analysée, mais en première instance, on ne l'a pas retenue parce que elle présente certaines imperfections, elle semble assez peu adaptée à la structure de la fondation jacket. C'est-à-dire que le courant imposé, pour qu'il se propage correctement et que la protection soit efficace, il faut que ce soit sur une surface relativement lisse et sans discontinuité, là où sur nos fondations de jaquettes, on va avoir des soudures, des boulons, et des ruptures des discontinuités dans la surface métallique. Ceci dit, on a bien entendu l'inquiétude de la population à ce sujet et la demande que M. Nourry vient de rappeler, et on continue d'investiguer en ce sens pour voir s'il y a des alternatives qui ne sont pas envisageables. On a encore le temps. Donc, on travaille sur les pistes alternatives aux anodes sacrificielles. Mais aujourd'hui, le scénario qui est retenu, c'est une protection par anode sacrificielle.
La polémique n'a pas lieu d'être.
Sur le fond, non, parce que, comme je le rappelais, il y a des concentrations déjà naturellement dans l'eau, et ce n'est pas... les anodes, même si on parle il va y avoir tant de tonnes de machin, ça n'a pas modifié la concentration de l'aluminium ou du zinc dans l'eau, donc c'est un peu facile de
d'afficher
le chiffon rouge, mais voilà, si ça peut être évité, tant mieux. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire un truc comme quoi la mer va être empoisonnée. Enfin, j'ai entendu tout. Il ne faut pas déconner non plus, quoi.
Michel Chambaud.
Oui, je crois
que... Je vous passe la parole dans un court instant, Lucille.
Oui, je crois qu'il faut vraiment dire qu'il y a un certain nombre de lobbies anti-énergie renouvelable et anti-éolien, on les connaît, on sait très bien, et qui n'ont de cesse, effectivement, de faire peur, en fait. Alors, que des questions techniques se posent, que des questions réelles puissent être étudiées, comme vient de le montrer Bruno, c'est tout à fait légitime. Mais on a avancé, tu te rappelles, Roland, les questions sur les éoliennes ne vont-elles pas tout à coup amener la modification des courants ? Les éoliennes ne vont-elles pas, en fait, supprimer le sable ou au contraire amener du sable ? On ne sait jamais dans quel sens ça peut aller, etc., 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 quoi. Et là, maintenant, la dernière découverte, c'est d'amener, avec même d'ailleurs des éléments de tonnage, sans qu'on sache du tout par rapport à quoi. Quand on parle d'une tonne par rapport à la masse d'eau qu'il peut y avoir entre qu'il y aura sur l'ensemble du parc éolien, ça signifie rien, quoi. C'est même pas une goutte d'eau dans le port de l'Île-Dieu. Enfin, voilà. Donc, je crois qu'il faut faire très très attention à ça. Il y a l'effet peur, quoi. C'est-à-dire, on va vous dire, ouais, il y a X tonnes d'aluminium qui ont versé. Et du coup, les gens disent,
70
oh là
tonnes.
Là, voilà, hein, comment?
70 tonnes.
C'est bien, oui, ça, voilà, ouais,
c'est bien ça le chiffre, Lucille.
Oui, voilà. Mais on aurait pu dire 100 tonnes, on peut dire 100, 150 tonnes. Ça ne signifie à rien puisqu'on est dans un milieu ouvert. Autant dans un port, on est dans un milieu relativement fermé. Et on pourrait se dire, oh là là, mon Dieu, dans un port, oui, sauf que le port, il y a la marée. Dans le parc éolien, en plus un milieu ouvert, où il y aura un kilomètre entre chaque éolienne, et où il y a des courants, et où il y a aussi de la marée, et où il y a de la houle, etc. etc. Donc ça ne signifie strictement rien. Voilà.
Lucille Forger, vous voulez rajouter quelque chose ?
Juste un point concernant les chiffres, parce qu'il est important d'avoir des données qui soient les plus précises possibles. Ce n'est pas 72 tonnes, hein, c'est 32 tonnes d'anodes par fondation, ce qui veut dire effectivement rapporté à l'ensemble des 62 fondations, puisqu'on aura les éoliennes plus la sous-station électrique, 2048 tonnes. Voilà. Juste un dernier point, c'est pour essayer d'objectiver un peu les chiffres. Nous travaillons à l'élaboration d'éléments de comparaison. Je disais, lorsque nous avons commencé à aborder ce sujet-là, que les anodes sacrificielles étaient déjà présentes dans les infrastructures portuaires, sur les bateaux de pêche, les tankers. Nous sommes en train d'essayer de collecter de l'information vérifiable et publiquement accessible pour pouvoir justement mettre en perspective les chiffres de tonnage d'anodes sacrificielles qui seront installées sur chacune de nos fondations en relation avec ce qui se fait sur un tanker, etc. Et ça permettra de relativiser un peu ces chiffres-là et de voir que les anodes sont déjà présentes dans l'environnement et ne génèrent pas l'impact dramatique qu'on veut parfois dépeindre.